Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Et avec moi, vous le connaissez, hein, puisqu'il ne laisse personne indifférent, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Il ne gardera pas sa langue dans sa poche. Djalma, comment vas-tu aujourd'hui?
Salut tout le monde, bah ça va et vous? Comment ça va? La semaine s'est bien passée?
Bah ouais.
Bah écoute, avec le retour du soleil, un pur plaisir. Vous l'avez entendu, on retrouve avec moi également French, hein, vu comme un guide spirituel ou un charlatan des temps modernes, selon Djalma. Comment vas-tu aujourd'hui, mon petit French?
Alors, le charlatan va super, c'est le printemps, Final Fantasy VII Rebirth, c'est intéressant, donc voilà, on s'éclate.
Ouais, moi j'ai lancé Rise of the Ronin, j'ai hâte de pouvoir vous en parler aussi par la suite. En attendant, au programme de ce podcast, retour sur les dernières actualités du moment, notamment avec le naufrage des casques PSVR 2 chez Sony, mais aussi avec la présentation d'Ubisoft et son IA générative lors de la GDC 2024. Puis place au débat avec le grand retour de Brothers, The Tale of Two Sons, hein, 10 ans après sa sortie. On lui dira ce que vaut pour nous ce remake. Et pour rester dans la thématique des reboots, j'aimerais que dans la dernière partie de ce podcast, hein, le calumet du pixel, j'aimerais savoir si les chroniqueurs avaient une lampe magique. Quel remake d'un jeu qui selon eux est iconique, ils aimeraient voir revenir aujourd'hui. Allez, maintenant que vous savez tout, on va tout de suite passer à l'actu mitraillée.
C'est l'heure de l'actu mitraillée.
C'est donc selon le site Bloomberg que Sony aurait suspendu la production du PSVR 2 le temps d'écouler ses stocks. Toujours selon le média américain, environ 1 million de casques VR auraient trouvé preneur alors que plus de 2 millions auraient été produits par Sony. Djalma, est-ce qu'on pouvait prévoir un tel échec par PlayStation, même si je connais un peu déjà ta réponse?
Mais tu sais, désormais, je me considère un peu comme un grand oracle, on va pas se mentir, parce que ça fait des semaines, voire des mois que je l'avais annoncé dans différents podcasts que ça n'allait pas marcher. Alors moi, je vais rappeler les raisons. Déjà, je pense que déjà, c'est avant tout le prix. Je rappelle que le prix du casque PSVR 2, c'est 600 euros. C'est quand même plus cher que la console. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme si t'achetais deux consoles à la fois.
En plus, t'es obligé d'avoir la console et le casque. On a pour un budget de 1000 balles pour avoir la technologie à la console. À côté, t'as le MetaQuest, par exemple, à 400 euros. Qui a un meilleur catalogue, c'est beaucoup plus intéressant quand tu veux expérimenter, je pense, cette technologie.
Et puis en plus, je sais pas si, comme vous, vous achetez souvent vos jeux physiques, ce qui a le don de m'énerver, mais on y reviendra un jour, parce qu'il y a les chiffres du sel qui sont tombés, donc on en reparlera dans un podcast ultérieur. En fait, il n'y a pas possibilité de le tester le casque, et on sait que certaines personnes, quand même, certains gamers, sont apparentés à des vertiges, des vomissements, etc. Donc moi, je vais pas foutre 600 balles dans un casque, voir déjà si je peux le supporter ou non. Donc il faut le tester. Mais maintenant, pour tester ce casque, c'est compliqué dans les magasins. T'as très peu de magasins de jeux vidéo qui le permettent. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Et puis, dernière chose, et je l'ai déjà dit plein de fois, il n'y a pas de jeu qui donne envie d'acheter le casque. Ok, vous avez Horizon, vous avez Resident Evil, etc. Village, mais il y a quoi d'autre comme jeu qui attire?
Après, il y a quand même... Attends, il y a quand même 200 jeux qui sont sortis cette année sur le PSVR 2. Moi, ce que je pense qui a été dommage, mais on va en parler sur la seconde partie, parce que j'ai une petite question pour toi, French. Mais ils n'ont pas fait la rétrocompatibilité avec le PSVR 1. Et en fait, quand le PSVR 2 est arrivé, il n'y avait déjà pas de catalogue. Parce qu'ils l'ont dit, la plupart des jeux étaient au stade de développement, entamés leur stade de développement. Donc le PSVR 2 est arrivé avec quasiment rien sur le catalogue. Pas de rétrocompatibilité. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, ça aurait permis à des gens de pouvoir expérimenter les précédents jeux avant d'attendre toutes les sorties. Parce qu'on a quand même eu les Resident Evil qui sont sortis sur PSVR 2 et ils sont bien. Horizon qui est plutôt bien, il y a quand même eu des jeux plutôt bien qui sont sortis.
Ça fait deux jeux par rapport à 600 euros.
Mais il y a 200 jeux qui sont sortis cette année, c'est quand même pas nul sur une année
de production. Les gars, il va falloir faire une belle analyse. Et malheureusement,
moi, j'ai rien dit encore, alors arrête de m'inclure là-dedans.
Hein. Oui, mais comme je sens vous êtes en complaisance depuis quelques podcasts,
mais donc j'aimerais être seul contre tous.
Moi, je me suis quand même posé une question parce que j'ai regardé effectivement les 200 jeux qui sont sortis et je pose maintenant la question directement à PlayStation. Où ils sont vos jeux first party? Mais à un moment donné, pourquoi il n'y a pas des jeux comme God of War sur le PSVR 2, The Last of Us, Spider-Man? Vous savez très bien qu'il y aurait des first party sur le... Ça veut dire qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que PlayStation ne croit pas en leur casque. En fait, on en avait déjà parlé plein de fois, ils ont voulu faire plaisir aux Japonais qui voulaient absolument de ce casque, les Américains n'y ont pas cru, et ça se voit, on n'a pas de jeux first party. Je te le dis honnêtement, tu aurais juste The Last of Us et un Spider-Man, je peux te dire qu'ils boosteraient leur vente quoi qu'il arrive.
C'est ça qui est terrible, qui est absolument terrible. C'est que moi, ça me rappelle très simplement le cas de la PS Vita, qui est la dernière console portable de Sony, qui est une magnifique machine et qui a été délaissée au bout de 1 an et demi, 2 ans quasiment par Sony avec les first parties. ce sont les tiers qui ont fait le succès de la machine. Et encore aujourd'hui, c'est une très belle machine, mais qui n'est plus supportée. Voilà. Et le PSVR 2, c'est strictement la même chose. Tu vois très bien qu'au niveau de l'équipe dirigeante, tous les studios ou tous les exécutifs ne sont pas pour le PSVR 2. Pourquoi ? Parce que pour reprendre certains arguments que vous avez très justement dit, le prix, le tarif d'abord. Alors oui, c'est très cher. Pour un périph, c'est extrêmement cher. Maintenant, si tu compares à des vrais casques de réalité virtuelle avec ce type de composants, ça se situe dans les tarifs du marché. Le MetaQuest est techniquement moins intéressant que le PSVR 2, par exemple. Hein.
Oui, mais les autres casques, tu peux les exploiter pendant une durée quasiment illimitée jusqu'à mise à jour. Là, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu vas passer sur la PS6, ton casque va être obsolète. Donc, tu investis 500 euros pour un casque sur une durée limitée, une expérience, c'est là où en fait le positionnement de Sony n'a pas été bon. Et tandis que s'ils avaient ouvert à la limite la compatibilité avec le PC, tu vois.
Qui arrive.
Là, le casque. Bah,
ouais, je suis même pas sûr que ça s'ouvre le casque.
Si, ça arrive.
Il y a un truc qu'on n'a pas rappelé, mais je pense qu'il y a un. C'est arrivé à la mauvaise période. Parce que ce qu'ils n'avaient pas prévu quand ils ont lancé les PSVR 1 et 2, etc., et les casques en réalité virtuelle, c'est qu'entre temps, mais c'est pas con ce que je vais dire, il y a eu le Covid finalement. Et le Covid, il y a eu quand même cette réflexion, même chez nous les gamers, de ah bah il faut aussi profiter de la vie, il faut profiter. Et la réalité virtuelle t'enferme dans un monde virtuel. Et je pense que même les gamers ont une autre vision un peu du monde moderne. Hein. Je pense que ça a quand même joué. Il ne faut pas l'écarter, cette hypothèse.
C'est très intéressant comme remarque, même si je ne la soutiens pas. Pour une raison très simple, c'est que les gens n'ont jamais autant joué que durant la période du Covid.
C'est ça.
Donc au contraire, c'était la période parfaite pour se lancer dans la réalité virtuelle.
Oui, mais je te parle de l'après-Covid.
Tu parles de l'après-Covid.
Je ne te parle pas pendant le Covid.
Alors, c'est là où il y a eu la chute. Ouais.
L'après-Covid, c'est autre chose. Mais le gros problème, et tu l'as très très bien dit, Jalma, ce sont les jeux, c'est le catalogue. Pourquoi tu prends MetaQuest, hein, le MetaQuest en casque autonome, c'est très nettement moins puissant. Hein, les expériences que tu as dessus, il y en a des magnifiques.
Hein. Non, mais t'as un catalogue beaucoup plus fourni.
Sauf que c'est fourni et surtout rétrocompatible. Pourquoi Sony n'a pas fait ça ? C'est complètement aberrant. Tu citais tout à l'heure le cas du Call of the Mountain, c'est le jeu inspiré de Horizon en réalité virtuelle, qui a l'air vraiment bien. Hein. C'est un jeu qui est sorti au lancement du PSVR 2. Bah, Sony a fermé il y a quelques semaines le studio qui l'a développé. Donc, te dire que la suite, tu vas pouvoir l'attendre longtemps. Hein,
a eu la fermeture de PlayStation London qui travaillait sur les affaissances, en fait.
Exactement. Donc, en fait, les studios First en VR, en fait, Sony est en train de faire la même chose qu'ils ont fait avec la PS Vita. C'est-à-dire qu'ils n'y croient plus et ils sont en train de le montrer. Donc, quand tu es un constructeur principal, tu ne crois plus en ton produit, comment veux-tu que les tiers viennent soutenir le truc ? Il y a un truc qui me pose un vrai souci là-dessus. Quoi.
Ça serait quoi, pour toi, French, la solution, un peu, hein, la stratégie qu'ils pourraient mettre en place pour essayer de sauver ce PSVR 2 ?
Franchement, il n'y en a plus vraiment. Vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, mais bon, c'est une info qui est désormais officielle. Sony va ajouter la compatibilité PC. C'est-à-dire que votre PSVR 2, vous allez pouvoir le connecter sur votre PC
USB. Ça, ils auraient dû le faire de base.
Et vous allez pouvoir jouer à la ludothèque réalité virtuelle de Steam et des autres stores du PC. C'est génial parce que c'est un bon casque, proposer un tarif sympa et tout, c'est un vrai truc. Mais moi, autant j'accueille ça avec bienveillance, parce que je pense que c'est une bonne chose pour le consommateur et le joueur que nous sommes, mais j'y vois aussi un aveu de faiblesse marqué. Parce que si tu te dis, bon bah voilà, mon casque, vous allez pouvoir y jouer sur PC. Quelque part, ils sont déjà en train de dire, mais sur PlayStation, en fait, vous n'avez plus rien à voir à vous mettre sous la dent. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Non, mais la question, il faut la répondre autrement. J'y répondrai à sa place. C'est qu'en fait, il faudrait sortir des jeux first party. Ça pourrait relancer les ventes du casque.
Mais ça, c'est fini, ça, c'est mort.
Oui, non, mais...
Et faire de la vraie communication autour. Parce que niveau marketing, c'est plus faiblard.
Il y a un autre truc qui peut se tenter, mais ça peut faire grincer des dents, c'est de tenter des licences exclusives à la réalité virtuelle. Qui t'oblige, en fait, à acheter le casque pour pouvoir jouer à des jeux exclusifs. Que tu ne peux pas retrouver sur des supports classiques, tout simplement.
Mais c'est Serpent qui se mord la queue. T'as raison là-dessus. C'est Serpent qui se mord la queue, c'est ce que fait Meta. Meta, arrête pas de faire beaucoup
de partenariats. Ouais, mais Fred, c'est un truc que t'oublies. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé du tout.
Oui, d'accord, mais tu viens de me couper, donc tu vas te calmer 30 secondes.
Oui, mais on en parle de ça parce que c'est important. Combien ils ont perdu d'argent dans le développement de ce casque et autres ?
En développement du casque, on ne sait pas. En revanche, en termes de fabrication et en termes de vente, pas vraiment, puisqu'on sait, semble-t-il, que c'est plutôt rentable pour eux.
Mais attends, il y a les stocks qu'ils ont fabriqués, hein.
Oui, mais je veux dire par là qu'ils ne vendent pas à perte ce casque. C'est ça a priori qu'il faut quand même prendre
en considération. Oui, mais là, le stock qui n'est pas vendu...
Plus c'est le stock immobilisé.
Alors,
tu
peux juste poser la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, Jama, tu as commencé à répondre. Oui, il faut lancer des jeux first party. Moi, je te réponds. Oui, mais quand tu fermes les studios et que tu ne montres pas un intérêt au niveau de Sony, ce n'est pas là-dessus que tu vas pouvoir actionner quelque chose. Et pas en tout cas un acte d'achat chez les personnes qui n'ont pas encore ce casque. Moi, je vois un deuxième truc qui n'est pas non plus une solution miracle, je reconnais. c'est de faire un gros discount sur le casque pour essayer d'attirer. À mon avis, ça va arriver d'ici le prochain Black Friday en 2024.
Pour moi, c'est la meilleure solution. Tu brades les prix, comme ça t'amortis en fait les coûts, et surtout en fait, tu permets de t'implanter dans les foyers initialement qui n'avaient pas le budget, de découvrir cette technologie avec un nouveau panel de clients. Et par la suite, si tu veux revenir avec cette technologie, parce que c'est une technologie, malgré tout, moi j'y crois. Je pense qu'il y aura un rebond du marché à l'avenir quand elle sera beaucoup plus développée, un peu moins lourde, un peu moins imposante.
Oui, ça fait quand même 10 ans que ça se développe, les casques VR. Hein.
Ouais, mais moi, c'est une technologie auquel, personnellement, je crois depuis le début. Vous le savez, ça me fait mal d'ailleurs de lire ces news parce que j'ai envie d'y croire. Mais s'implanter déjà de manière un peu plus logique et sans une technologie hyper coûteuse, hyper fermée à PlayStation, ce serait déjà...
Moi, je vais te dire, et je sais que Jalma adore ce type de stats maison et très autour de nous. Dans mon entourage, j'ai pas mal de gens qui disposent d'un casque, c'est-à-dire qu'ils ont acheté soit le MetaQuest 1, 2 ou 3, ou disposent d'une solution en casque virtuel. J'en ai plusieurs qui sont passés par les solutions de Sony. Le PSVR 2, c'est très simple. Hein. Dans mon cercle, on va dire de 12-15 personnes, une personne l'a acheté. Une seule sur 12-15 qui aime la réalité virtuelle.
Parce que quand tu veux tester cette technologie, c'est pas sur le PSVR 2, même si c'est un très bon casque, c'est pas là-dessus que tu vas te positionner.
J'aimerais juste réagir sur ce qu'a dit Just de J'y crois. Alors, je vous invite vraiment à écouter nos podcasts quand elles croient en quelque chose, notamment sur Vanisher. Généralement, ça se plante derrière. Écoutez le podcast sur Vanisher, vous comprendrez.
T'as pas tort, putain. Bon, lors de la Game Developer Conference, hein, sinon Ubisoft est venu présenter sa nouvelle technologie avec les PNJ pouvant utiliser l'intelligence artificielle générative. Alors, on appelle ça des Neo-NPC. Alors, ils créent ainsi en fait, des lignes de dialogue qui vont s'adapter aux réponses et aux actions des gamers. Alors, ça ne concernerait que certains PNJ, hein, ceux qui n'ont pas un réel impact sur l'expérience globale du jeu. Ça pourrait être par exemple des personnages qui vont vous donner des quêtes annexes, etc.
Des missions d'entraînement, oui.
Ouais, voilà, des missions d'entraînement. French, toi, que penses-tu de cette technologie, de l'utilisation de cette technologie dans le monde du jeu vidéo actuellement ? Je précise actuellement parce que elle est un peu controversée quand même, cette technologie aujourd'hui.
Oui, peut-être qu'on n'aura pas la même réflexion dans un an, va savoir. Oui. Mais moi, j'accueille ça avec beaucoup de méfiance parce que certes, Jalma me dira que c'est Ubi, mais je le dirai avec n'importe qui. Quand on est en train de me dire on va utiliser de l'IA avancée pour des quêtes annexes, des personnages secondaires, on sait comment ça commence. Hein. Ça commence par là et puis ensuite, il y a tout un jeu qui est fait autour de ça. Hein,
ouais.
Donc, méfiance absolue là-dessus. Bon, moi, je suis un petit peu embêté. Pourquoi ? Parce que vous le remarquez tous au quotidien, les coûts de développement, ça explose. La masse salariale, il faut la payer et puis on la paye plus cher. Et c'est normal, on essaie de valoriser les talents qui contribuent aux jeux vidéo. À côté de ça, on a toutes les solutions techniques qui sont employées qui explosent. Les joueurs demandent toujours plus de contenu. Ça a un coût sur les équipes de développement, un coût humain, un coût temporel et un coût financier. On demande aussi à avoir plus de photoréalisme, plus de technologies qui déboîtent et compagnie pour les jeux qu'on aime jouer. Bah, tout ça, pareil, ça se paye. Du coup, forcément, on cherche à trouver des leviers et des leviers de rentabilité à différents niveaux. Et on peut percevoir cette solution pour ça. Maintenant, moi, je suis très inquiet parce que, en tant qu'amateur de jeux solo, et je sais que vous l'êtes aussi, je me dis, merde, est-ce qu'on va pas menacer aussi des emplois,
bien sûr.
Des dialoguistes, des scénaristes. Est-ce qu'on va pas aller couper aussi des budgets là-dessus? Moi, il y a quelque chose qui me fait assez peur, je sais pas pourquoi.
Oh là là, ce discours de syndicaliste.
Mais pas du tout, c'est bien sûr forcément les scénaristes
qui
vont être impactés.
Les
scénaristes, crois-moi, c'est tous les petits qui rentrent dans le milieu du jeu, en général, ils passent par les phases de scénaristes. Et ça, c'est des...
Non mais
ça, c'est
attendez,
attendez,
mais réalisez un truc de ce que vous dites. Déjà, l'IA n'est pas encore arrivée, on a déjà plein de licenciements actuellement, on est dans un monde du jeu qui est en crise. Donc je vais te dire que l'IA arrive ou pas, c'est pas ça qui va plus supprimer
Ubisoft,
l'emploi, il y en a déjà plein de supprimés.
Ubisoft utilise déjà l'IA pour ses dialogues.
Utilise déjà l'IA. Mais moi, j'ai envie de répondre quand même un truc à French. Quand tu te rends à ton travail, tu y vas encore en calèche avec des chevaux.
Non, mais Jalma...
Non, mais c'est fou d'avoir une vision archaïque.
C'est
et
pas
d'avoir,
une, c'est pas
il faut arrêter de
archaïque.
Toujours avoir peur de l'évolution. Il faut toujours arrêter d'avoir peur de l'évolution. Et moi, je vais vous donner un exemple, parce que vous partez toujours chez les joueurs solo, les joueurs solo et tout. Mais moi, je trouve que cette technologie, ça va être bien. Et surtout, sur certain type de jeu, bah, les MMO. Parce que vous savez, les MMO, à un moment donné, les MMO, c'est souvent la même chose, etc. Et ben, ça va être bien de rencontrer des personnages, des PNJ dans le jeu qui vont pas sans arrêt répéter la même chose, qui vont faire évoluer les dialogues. Ben, l'IA, j'y vois un avantage dans les MMO, par exemple.
On s'amuse vraiment à rigoler.
Que d'abord de la répétitivité.
Ouais, on s'amuse souvent à rigoler de la bêtise des PNJ, c'est sûr.
Je pense que Jamar a raison pour les MMO, mais enfin, les MMO ne s'illustrant pour la plupart déjà pas pour leur qualité scénaristique. Évidemment, tu leur mets un truc crétin façon IA, ça va être strictement le même exercice. Ça, je suis d'accord.
Par contre, attention, ça voudra dire qu'on ne pourra plus maltraiter les PNJ. Parce qu'il y a un système de mémoire. Donc ça, c'est problématique.
Oui, mais tu vois, ce qui peut être intéressant aussi, parce que je pense que, comme vous dites, les humains ne peuvent pas tout gérer dans un jeu vidéo. On est quand même les premiers à se plaindre de la bêtise des PNJ qui nous accompagnent ou de l'IA quand on est dans des phases de shoot. Souvent, on s'en plaint. Si cette technologie pourrait aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire rendre des PNJ beaucoup plus intelligents, beaucoup plus interactifs, et pas que d'un point de vue scénaristique, comme vous le mettez en avant, et qu'on peut aller sur une meilleure IA dans les approches de combat.
Mais là, ce qui est mis en avant, intéressant. Oui, mais là, pour le moment, c'est pas ce qui est mis en avant. Pour le moment, ce qui est mis en avant,
oui, mais ça va
c'est le côté
vous
mémoire,
savez très bien
c'est
que ça
le côté ligne
ça.
De dialogue, c'est le côté réaction à son environnement.
Mais oui, mais parce qu'on est au début de la technologie, mais vous savez très bien qu'elle va évoluer. Regardez les véhicules. On est passé quand même de la calèche au véhicule
motorisé.
Au véhicule qui était motorisé. J'arrive plus à retrouver. Non, mais je l'utilise pas. Je me déplace à pied pour l'écologie.
Ouais, d'accord. Ouais.
On va arriver vers les véhicules électriques. Maintenant, voyez l'évolution. Mais l'IA, ça va être pareil. Faut arrêter d'avoir peur de tout.
Alors, on n'a pas peur, Djalma. Mais c'est normal de lever cette question. De toute façon, elle est très critiquée aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. Et pourquoi ? Et ce n'est pas que l'industrie du jeu vidéo. On peut parler, mais je le redis à chaque fois, on peut parler de la médecine. On peut parler de plein d'autres secteurs. L'IA va prendre une importance dans certains milieux. Et c'est sûr qu'il va y avoir des pertes d'emplois. C'est sûr. On ne peut pas en parler. On ne peut pas
oui,
dire
que
tout
vous
est
oubliez
bon
de...
avec l'IA.
Ouais, mais ce que tu oublies de dire, c'est que toute nouvelle technologie, et ça se voit dans toute l'industrie mondiale, les évolutions
et
de travail, ça crée aussi
emplois,
de l'emploi parfois.
Tu as raison aussi par la suite.
Voilà, ça va faire effectivement disparaître des emplois. Regarde, plus personne ne travaille dans les mines en France, c'est peut-être très con. Eh ben, on a bien créé des nouveaux emplois, donc la technologie crée des emplois. Là, ce qui nous inquiète actuellement, c'est qu'il y a énormément de licenciements, mais qui ne sont même pas liés à l'IA. Parce que je vous rappelle que le monde du jeu vidéo est géré maintenant par des actionnaires. C'est juste ça qui a évolué. Oui, mais beaucoup, ce qui explique les licenciements quand même.
Comme tu l'as très bien dit, de toute façon, c'est conjoncturel. Et tous ces licenciements, ils sont liés à des décisions qui ont été prises en 2022-2023, l'après-Covid. Donc là-dessus, oui, je te rejoins à 200%. Après, l'IA, moi, pour te répondre là aujourd'hui, je te réponds vraiment, et je l'assume, sur le côté narratif et solo. Moi, je suis particulièrement adepte à une histoire très travaillée, à des dialogues qui sont bien écrits. Comme ça, là, je pense à Baldur's Gate 3, par exemple, en titre récent. C'est sûr que si tu mets des PNJ plus secondaires qui parlent avec un truc apprenant aujourd'hui, moi, je pense pas que j'aurai la même qualité de retranscription. En tout cas, j'ai un plaisir
Mais
très particulier que je suis pas sûr de retrouver. C'est ça qui m'embête.
Au contraire, ça va que renforcer l'immersion et ton expérience de jeu. D'avoir une IA qui s'adapte à ce que tu as fait avec lui, à son environnement, plutôt qu'avoir un personnage complètement abrupt qui va répéter les mêmes trois lignes de texte qui lui ont été codées. Là, c'est une immersion supplémentaire.
On parle d'un truc différent. Je ne suis pas certain que la qualité d'écriture sera la même. Tout du moins, en l'état actuel des choses.
En fait, c'est la capacité d'interaction avec ton PNJ.
C'est ça qui va être augmenté au détriment, peut-être, de la qualité d'écriture, comme moi je dis.
Oui, mais je suis pas sûr que la qualité d'écriture baisse. Je vais te donner un contre-exemple. Regarde, depuis qu'il y a ChatGPT, les mails professionnels se sont nettement améliorés, bizarrement, tu vois.
C'est vrai
oh
aussi.
Là
ça.
Là.
Ça, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, moi, tu vois, dans les histoires que j'aime dans les jeux vidéo, j'aime quand il y a un petit peu de poésie, un peu de nuance. Et ça, moi, de mon contact que j'ai avec ces moteurs-là, je trouve que, justement, pour des mails professionnels, comme tu l'as cité, c'est très très bien. Mais pour des choses un petit peu plus littéraires, ça m'embête
mais
un peu
non,
plus.
Mais surtout, tu perds ce côté personnel, en fait, de la personne, du studio, de son identité. Quand tu parles de ChatGPT, mais pour moi, c'est tout ce que je déteste, parce qu'en fait, il n'y a rien de personnel, c'est juste c'est du généré. Donc, il n'y a rien de humain derrière, d'émotionnel, dans ce que tu vas fournir au travers de ce travail. Et j'ai peur qu'avec l'IA, on puisse retrouver ça également.
Oui, mais regardez, les gars.
Et perdre, en fait, l'identité d'un studio qui va l'utiliser, parce qu'on est sur quelque chose de plus général.
Et moi, je vais t'offrir ta transition pour le sujet suivant. Il est incroyable. Regarde, French met en avant les dialogues, etc. Et pourtant, à l'inverse, il a adoré le scénario de Brothers. Et pourtant, il n'y a pas une seule ligne de dialogue. Comme quoi.
Je ne l'ai pas adoré.
Ouais, on va parler de Brothers. C'est terminé pour l'actu mitraille. On va tout de suite passer au Clash du mois. Alors aujourd'hui, dans le Clash du mois, vous l'avez compris, retour sur le reboot de Brothers, Tale of Two Sons. Alors pour rappel, le jeu est initialement sorti en 2013 et de faire ses premiers pas dans l'industrie du jeu vidéo puisqu'il avait participé au développement, à l'écriture et à la réalisation de ce dernier. Plus tard, il créera sa société avec Azelite pour donner naissance à A Way Out, un excellent jeu, et It Takes Two que normalement on ne devrait même plus vous présenter puisqu'il a eu un succès fou et a même été GOTY en 2021. Mais alors, 10 ans après le jeu original, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir sorti ce remake ? Alors, on va en débattre, mais on va d'abord commencer par l'histoire de ce jeu. On parlera ensuite de la DA et du gameplay, et vous avez l'habitude, à chaque phase, on débattra dessus. Et pour commencer, du coup, ça sera avec l'histoire. Et French, est-ce que tu veux prendre la parole pour nous narrer l'histoire de Brothers?
Bien sûr. Tu veux pas que je réponde aussi à la question, déjà, que tu as posée ou... Non.
Est-ce que c'était une bonne idée? Alors, c'était une bonne idée, mais ça dépend sous quelles conditions, et on en parlera par la suite. Moi, je suis pas sûre d'avoir cédé à la pression du jeu en coop et d'avoir fait un jeu en coop ait été une bonne idée.
Yes.
Mais on en parlera par la suite.
Ça, on va en débattre parce que j'ai pas le même point de vue là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas vous départager maintenant puisqu'on va parler de l'histoire. Alors, l'histoire de Brothers, elle reste identique au jeu original sorti il y a maintenant 10 ou 11 ans. Alors, on va retrouver l'histoire de ces deux frères qui s'aiment, qui ont une fraternité très forte. Enfin voilà, tout va bien dans leur vie. À l'exception d'une maladie, leur père est atteint d'une maladie mortelle et les deux frères, pour tenter de le sauver, vont se mettre en quête d'une sorte d'élixir de vie qui serait capable en fait de sauver leur père qui, sans ça,
Je me permets, tu dis tout va bien dans leur vie, ils ont quand même perdu leur mère, on le voit au tout début. Dans un naufrage sous leurs yeux.
C'est un détail. Ouais, non, mais très bonne remarque, Joss, parce que je me dis, le mec résume le scénario, il lui dit l'essentiel de la première minute
pas,
du jeu.
C'est pas,
quand même,
c'est pas
bon.
Tant l'essentiel, parce que ça fait partie de leur passé.
Ah bah si,
aujourd'hui,
quand même, c'est ce qui explique qu'ils sont rapprochés.
C'est leur passé.
Quand
c'est
tu
leur
débutes
passé.
L'aventure, tu t'aperçois quand même qu'ils vont très bien, à l'exception de leur père. Leur mère est déjà décédée il y a plusieurs années.
Attends, il est en train de pleurer quand même devant la tombe de
sa mère.
Le jeu commence comme ça.
Moi, quand je vais devant la tombe de certains de mes aïeux, je pleure aussi, ça ne veut rien dire. Durant ce voyage en quête de l'élixir de vie, qui est vraiment l'élixir de vie commun à tout un tas de contes et tout un tas de récits de la littérature, on ne va pas vous donner tout un tas d'exemples. Dans ce périple, on a donc ces deux frères qui vont affronter de nombreux obstacles, qui vont affronter tout un tas d'ennemis, une faune sauvage, une nature qui n'est pas toujours aussi bienveillante qu'on ne le croit. Et en fait, on va s'apercevoir, surtout dans le gameplay que Jalma évoquera un tout petit peu plus tard, qu'il va falloir littéralement compter l'un sur l'autre, sur les deux frères, que ce sera primordial pour triompher de cette adversité. Et c'est vraiment au cœur de l'un des messages très très forts du jeu,
ouais.
Autant dans son histoire, dans ses intentions, que dans son gameplay. C'est un truc qui est très réussi au sein du jeu. Alors Jalma l'a aussi dit un petit peu plus tôt, et j'ai bien aimé cette petite transition que tu nous as proposée, on a parlé de la langue imaginaire, parce que tous les personnages du jeu ont effectivement une langue qui n'existe pas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours très intéressant, que ce soit du yaourt comme dans Animal Crossing ou d'autres types de jeux, ou que ce soit ici quelque chose de totalement imaginaire, je trouve que c'est la porte ouverte à l'imagination du joueur.
Alors, il y a quand même une grosse inspiration sur sa langue, et ça a été une révélation faite par Joseph Fer, le réalisateur. En fait, la langue est inspirée du Libanais, à la base, qui est... Il est Libanais de base, et il s'est inspiré de cette langue, en fait, pour la créer.
Alors après, pour que vous t'apporte une précision, je rajoute à ça, il y a une petite vidéo, hein, d'ailleurs, où il revient sur le jeu qu'il a réalisé en 2013. Il a aussi expliqué que c'est inspiré du Libanais, mais en fait, qu'il n'avait aussi pas les moyens financiers de faire doubler des dialogues, ce qui explique qu'ils ont créé des langues imaginaires pour réduire les coûts aussi budgétaires. Donc, il l'a dit, hein. Mais ça marche aussi,
mais
donc
ça
c'est
marche,
une bonne
idée. Ça marche très bien. Et on n'a pas besoin de dialogue pour comprendre tous les messages que je veux nous transmettre.
Et c'est ça qui est très, très, très malin pour terminer. C'est qu'effectivement, alors je ne le savais pas que c'était inspiré du Libanais, je ne parle pas le Libanais couramment. Et c'est très intéressant parce que, effectivement, tu te fies en fait à l'intonation, à la manière de dire les choses,
à la gestuelle aussi des personnages.
La gestuelle est assez intéressante au sein du jeu et à tout un tas de situations, certaines qui nous ont particulièrement touchés, qui en fait vont se comprendre d'une manière très différente. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un jeu, et Brothers, c'est vrai qu'il a une puissance évocatrice assez forte, qui rappelle toujours le conte. Ça lui donne aussi, pour finir, ce côté très grand public, le fait que le jeu soit accessible à tous, j'ai envie de vous dire, de 7 à 77 ans, par exemple.
Oui, alors, on va quand même faire attention à ce que tu dis une fois de plus. J'ai l'impression de faire le gendarme,
non,
désormais.
Alors, je pense savoir ce que tu vas dire, mais je vais quand même le maintenir. Pour moi, tu peux le faire avec un jeune enfant, peut-être accompagné d'un adulte, mais très clairement, c'est le genre de jeu que j'ai envie de faire avec mon neveu, par exemple. Hein.
Alors, vu les thèmes abordés...
Il y a des scènes quand même un peu glauques.
Je suis désolé, abordées comme des scènes de suicide que je ne mettrais pas à un enfant de 7 ans, je suis désolé.
Eh ben, moi, si, en lui expliquant, voilà. Parce que je pense qu'il faut savoir expliquer ce qu'est un malaise et ce qu'est
non,
une angoisse.
Non, mais même en dehors
voilà.
Ces scènes de suicide, on en parlera dans les liens, mais il y a des biomes qui sont un peu creepy. Il y a des biomes qui sont un peu creepy. Moi, je ne mettrais pas non plus quelqu'un de 7 ans dessus. Mais par contre, en revanche, t'as dit beaucoup de choses. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue, mais on arrive à avoir une histoire touchante et riche. Et ça, ça passe au travers de la gestuelle, Germa, tu l'as dit, mais ça passe aussi au travers des interactions avec notre environnement. Et ça, je trouve ça super parce que tu peux absolument interagir avec quasiment tout le monde et de deux manières différentes. Une manière un peu plus bébête avec ton petit frère qui va faire des grimaces et avec le grand frère qui va demander la route. Tout est interactif dans le jeu. Et ça, je trouve ça super. Moi, j'ai adoré.
Non, mais ce qui est important de dire dans le scénario et comment le scénario a été construit, parce que moi, je suis toujours impressionné par des jeux qui arrivent à construire des scénarios aussi forts avec une très courte durée de vie. Je rappelle que moi, le jeu, je l'ai fini en 4 heures, par exemple. Déjà, la première heure, on va le dire, c'est très poétique. Vous allez vous balader dans un village qui est très vivant, en quête de l'élixir de vie, comme a dit French. Et ce qui est bien, c'est comme tu as dit, Joss, il y a une interaction entre les enfants. D'ailleurs, le petit s'amuse beaucoup. Moi, j'ai le souvenir d'un moment donné, il s'approche d'un paysan, il lui met une claque sur le cul, ça m'a fait beaucoup rire.
Oui.
Et du coup, il y a beaucoup de vie, en fait. Et en fait, là où c'est assez, on va dire, dramatique, c'est que plus ta quête avance, plus le jeu se noircit. Et tu n'y t'attends pas à ça. Et qui aborde des thèmes très forts et très touchants. Moi, je ne comprends pas. J'ai écouté d'autres podcasts où des chroniqueurs me disent « Mais je passe complètement à côté de l'histoire du jeu. » Mais les gars, le scénario, il est environnemental. Je veux dire, vous allez avoir le suicide.
Bien sûr.
Il y a un truc qu'on n'a pas abordé, mais c'est le petit, il a peur de la noyade parce qu'il a perdu sa mère dans un accident de bateau. Et tu vas voir son frère qui va l'aider, etc., à nager. Enfin, ça, c'est quand même des moments hyper importants.
Surmonter le traumatisme.
Surmonter le traumatisme.
Surmonter le traumatisme et le dépassement de soi. Notamment, je pense à ce dernier arc qui est très bien amené. Je ne dirai rien, vous le découvrirez.
Sans dire
mais
rien
on
là-dessus.
On ressent vraiment au travers de ce personnage le dépassement de soi. Et du coup, la fraternité qui est là, qui est tellement forte. Il y a vraiment plein de thèmes abordés.
Le thème de la guerre qui est abordé. Le thème de la secte qui est abordé aussi, à un moment donné.
De la secte, du suicide, du deuil. Il y a énormément de thèmes forts. Énormément de thèmes qui passent par la découverte de notre environnement. C'est sûr que ça ne va pas être via des dialogues, etc.
C'est
mais
l'histoire
ça va
environnementale,
ça
en
va
fait, qui te raconte quelque chose. Ouais.
Environnement, ouais. Ça parle aussi un peu d'écologie, Jelma, j'ai pensé à toi.
Ouais, alors bizarrement, je l'ai moins ressenti dans le jeu, tu vois, je vais être honnête.
Ouais, mais il y a un petit passage où je me suis dit, Jelma doit bien aimer quand même, là.
Ouais, non, mais ça traite de ouais, plusieurs choses, toujours dans un conte mystique, féerique, parce que vous allez croiser des géants, des trolls, etc. Enfin, il y a beaucoup de magie, et c'est ça que j'ai adoré, et c'est vraiment l'histoire est touchante. Et finalement, au long de l'histoire, le petit frère qui est un petit peu insouciant malgré la perte de sa mère et la maladie de son père, il grandit. Et j'ai l'impression, et j'ai envie de dire un truc très fort, j'ai l'impression qu'on grandit avec lui tout le long de l'aventure, finalement.
Ouais, c'est un peu ça.
Et voilà, et je trouve que moi, je suis désolé. Ce jeu, il n'est pas critiquable selon moi en termes scénaristiques, parce que là, je pense qu'on est quand même face à une œuvre d'art. Il faut le dire. Il faut aussi remettre dans le contexte.
Je vais être très honnête. Je l'ai fait en deux runs. Ma première run, j'étais un peu mitigée. Alors, on en parlera après. Il y a ce facteur de coop où moi, je trouve que j'ai perdu, je pense, un peu l'essence.
Ça en reviendra
l'essence
derrière dessus.
L'essence même du gameplay. Mais même sur l'histoire, le premier arc, en fait, je vais vous en parler dans la DA, mais le premier arc, il est tout beau, c'est tout coloré, etc. Et du coup, bon, tu sais que ton père est malade, mais la narration environnementale n'apporte pas grand-chose. Pas tellement de choses.
Elle va créer ce qui va
et
se passer
en fait,
après.
Voilà, et en fait, c'est petit à petit. Après, le jeu n'est pas très long. Le jeu, il dure 3 heures, donc vous ne faites pas chier longtemps. Et une fois que vous avancez, vous arrivez dans des biomes qui sont beaucoup plus bruts, avec des actions annexes qui sont dramatiques, tristes. Et c'est là où, en fait, l'émotion du jeu va prendre petit à petit. Donc,
On oubliait de dire, les critiques qui ont critiqué Brothers, il faut remettre dans son contexte. Le jeu est sorti en 2013. Et je pense que Brothers, il y a des jeux comme ça, il y a des jeux vidéo, il y a un avant, il y a un après. Et je suis désolé, il y a eu un après Brothers, c'est pour ça qu'on a eu des jeux comme Brumble qui sont sortis dernièrement, c'est comme ça qu'on a eu des jeux comme Little Nightmare qui, je pense, en sont inspirés plus ou moins, etc. Et j'y reviendrai avec le gameplay, mais je pense que It Takes Two n'aurait pas été à ce niveau-là de brillanticisme s'il n'y avait pas eu Brothers, et j'en parlerai dans le gameplay plus tard.
Oui, ça, je suis assez d'accord avec toi, mais je ne fais pas la même analyse.
Je pense qu'il y a deux sensibilités différentes. Moi, je sais que j'ai joué avec mon conjoint qui a été un peu moins sensible, même s'il a trouvé ça beau, etc. Il a été beaucoup moins sensible à cette narration environnementale parce que je pense qu'il aime avoir les choses un peu plus terre à terre, avec qui soient montrées directement aux joueurs. Et peut-être que ces personnes qui le critiquent n'ont pas été sensibles à la narration environnementale, à prendre le temps de l'explorer, de la découvrir. Et du coup, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus terre à terre, en ligne droite, avec plus expliqué. Je sais pas si tu vois. C'est deux sensibilités différentes, je pense, là-dessus.
Ouais.
Mais c'est pas critiquablement.
Je pense sincèrement qu'au terme d'histoire et d'appréciation de l'histoire, il faut avoir effectivement ce côté très ouvert sur le visuel, sur les interactions et presque plus sur les actes des personnages et dans ce qu'ils vivent, plus que dans le rôle d'une histoire.
pourquoi je dis ça ? Bon, moi, j'ai plutôt apprécié l'expérience, même si on va encore en discuter. Mais je peux comprendre qu'on passe complètement à côté du jeu pour une raison très simple, c'est que le jeu est quand même très simpliste dans sa manière d'aborder les sujets. Ouais. Alors, pour peu que tu t'arrêtes à ce côté simpliste du jeu, tu vas le trouver même simplé.
Ouais. Non, mais attends, le jeu, il a plus de 10 ans aussi. Les gars, c'est un remake.
Mais on n'en parlera pas
à suite. Il faut aussi remettre dans le contexte.
Oui,
tout
mais
pareil,
on va passer à la DA parce qu'en fait, on va en parler dans le gameplay. Il y a un côté très simpliste dans les énigmes. Il y en a qui vont chercher peut-être un peu plus de challenge, qui vont se détacher. Il y a plein de choses comme ça, en fait, qui, je pense, je peux comprendre, puisse te sortir un peu du jeu si tu cherches pas une autre sensibilité. Mais on va parler de la DA d'ailleurs, et c'est moi qui vais en parler, hein, mais je vais pas pouvoir vous faire la comparaison du coup avec le jeu d'origine parce que je l'avais pas fait.
Bah nous on va pouvoir le faire du coup. Hein.
Moi je l'avais pas fait, mais en tout cas ce que je peux vous dire moi sur ce reboot c'est que je le trouve vraiment, c'est vraiment beau. On a des environnements plus que majeurs dans l'expérience du jeu, hein, vous l'avez compris, puisque son histoire s'appuie fortement sur la narration environnementale. Alors pour ce remake, ils ont utilisé le nouveau moteur graphique, on est sur l'Unreal Engine 5, je sais qu'à l'époque ils étaient sur le 3. Là, ça offre une réelle beauté dans les animations, les expressions du visage, les jeux de lumière, les biomes, j'en ai parlé légèrement, mais ils sont très variés, ils sont tous uniques, ils sont tous travaillés. On est dans un univers fantastique, hein, avec l'inspiration un peu mythologie nordique. Je pense que c'est pour ça que tu fais la comparaison avec Brambles, on le ressent un petit peu. On passe des contrées qui sont hyper chatoyantes en début de game, c'est coloré, c'est féerique, et on passe tout de suite après à des terres désolées, complètement morbides, on passe à des châteaux dans le ciel, enfin... Il y a vraiment plusieurs biomes qui sont très intéressants à traverser.
C'est un conte de fées.
C'est
ouais.
Féerique. On est dans une ambiance fantastique, féerique, à 200%. Et en fait, c'est vraiment une aventure, comme on vous l'a dit, qui d'un premier abord va sembler hyper chaleureuse. Hein, et on s'enfonce petit à petit dans une expérience qui va être tout autre, qui va être vraiment bouleversante, voire même légèrement dérangeante, même si French l'ouvrirait à tous. Il y a des passages qui peuvent être un peu dérangeants. Et ça on le vit au travers de ces biomes qu'on traverse hein, petit à petit qui révèlent des paysages à couper le souffle et bien d'autres choses. Faut savoir que la bande-son a été enregistrée par un orchestre symphonique avec des voix lyriques et qui en plus d'être de grande qualité, moi je trouve qu'elle renforce l'immersion et les émotions qu'on peut ressentir dans cette aventure, sachant qu'il n'y a pas de dialogue, elle est également avec l'environnement l'un des éléments majeurs et dominants du jeu. Elle est très très belle, moi, félicitations à ce qu'ils ont fait dessus, et je terminerai par les panoramas que j'ai trouvé tout simplement sublime. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long de votre aventure, vous croisez des petits bancs, en fait, sur lesquels on peut s'arrêter, qui nous permettent de faire une pause. Un instant, c'est un peu un moment où on souffle, une parenthèse de douceur, et on contemple ces panoramas qui sont magnifiques, encore une fois, colorés. Parce que même, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, mais je trouve que même si on peut passer par des passages très sombres, il y a toujours une forme d'espoir avec de la lumière, de la couleur, ça reste lumineux. Ce n'est pas dark, ça reste toujours lumineux, mais dans un environnement un peu morbide. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus, parce qu'il y a peut-être beaucoup de poésie à vouloir dire, toujours une forme d'espoir, comme on est deux, tout va bien, quoi. Donc la DA est très belle, et il y a beaucoup de choses qui sont racontées au travers de cette DA, mais je pense qu'il faut un peu l'analyser et avoir la sensibilité de cette DA.
Non, mais c'est tout à fait une très bonne analyse, et pour une fois, je vais être d'accord avec toi. Moi, je réponds une nouvelle fois aux détracteurs de Brothers qui ont dit « mais c'est qu'un remaster, le jeu ».
Tu parles aux détracteurs aujourd'hui ou quoi?
Ah non, mais j'ai entendu dans des podcasts que c'était un remaster. Non, les gars, on est face à un remake.
Non, c'est un remake, ça, on est d'accord.
Ouais, non, mais il suffit de le voir déjà. Allez juste voir les graphiques du jeu.
Regarde les visages.
Non, mais regardez juste quelques images des graphiques du jeu de 2013, du jeu initial. Regardez celle de 2024. Enfin, c'est un bon en avant graphique, et tu l'as mis en avant, hein. Et effectivement, ils ont fait aussi l'effort de réenregistrer les musiques de l'Epoch avec un orchestre. Et ça, moi, c'est vrai que le son a sublimé toute mon aventure, parce que j'avais pas souvenir d'un son aussi magnifique à l'époque, tu vois. Autant moi, j'avais été déjà impressionné par les graphismes de l'époque, mais c'est quand en voyant les images de l'ancien jeu que je me suis dit, ah ouais, ça n'a plus rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, quand on regarde le jeu actuellement. Il peut pas faire son timide par rapport à d'autres productions de jeux indés
de l'année dernière ou de cette année, quoi. Les émotions qui sont retransmises au travers de ces expressions. Elle est très importante, cette DA, parce que comme tu le dis, tout passe, l'histoire passe par cette DA, passe par cette musique.
Moi,
passe
ce qui m'a impressionné, ça reste quand même pour le coup là dans cette version là, c'est les effets de lumière. Vous allez avoir un moment de passage de nuit où vous allez être éclairé à la lampe torche, et j'ai trouvé ça magnifique. On voit qu'il y a tout un travail d'ambiance. Et on sent cette ambiance mythologique nordique, tu l'as dit clairement. Hein.
Ouais, c'est vrai que là-dessus, là, je te rejoins à 200%. Effectivement, on est bien dans le cadre d'un remake. Hein. Pour moi, il n'y a même pas d'ambiguïté là-dessus. Je ne sais pas qui parle de remaster, mais bon, je les laisse à leur propos.
Ah ben, je peux citer le nom si tu veux. En plus, on leur fait un coucou parce qu'on leur... Ouais, je vais le
coucou
dire.
Coucou, la taverne
dire
des
que...
gamers.
Ah bah, la taverne des gamers. D'ailleurs, il y a une erreur manifeste. Hein, pour le...
Non, mais alors que je vous invite quand même à écouter,
c'est
quand
bon
même
podcast,
un bon podcast.
Des très bons
podcasts. Kira, qui est un ami avec qui j'ai écouté sa dernière chronique sur... c'est pour ça que j'aime bien répondre par médias interposés. C'est la première fois que je le fais. Qui fait une analyse de Brothers et lui-même dit que c'est un remaster. J'ai
non.
Dit, va te renseigner, mon ami. Va te renseigner, voilà.
Non, non, je suis très surpris parce que j'ai pas encore écouté ce passage. Mais non, mais autant je peux comprendre qu'on, vous l'avez dit, pour la direction artistique, pour le visuel, la qualité de l'animation, t'as parlé de la lumière, les séquences de nuit, Jalma, il y a les séquences de l'eau, tout ce qui est eau,
ouais,
je trouve que
ouais,
ça
ouais,
est magnifique
ouais,
aussi.
Pour
ouais.
prendre un exemple, il y a des quadruple A de qualité comme Final Fantasy VII Rebirth qui n'ont pas cette qualité technique sur l'eau, hein, juste comme ça pour le dire.
Tu peux parler de Squelette Bones aussi. Hein.
Par exemple, chut. Mais voilà, ça c'est sûr. Après, ce qui peut-être a gêné certaines personnes, en tout cas pour certaines que j'ai écoutées, qui étaient un peu plus, on va dire, plus négatives sur le jeu, c'est peut-être que la maniabilité a été modernisée à la marge. C'est-à-dire que globalement, ça reste très rigide, très simpliste, à l'image du jeu d'origine. Et si vous voulez, ça ne fait pas l'objet d'un remake. Je vais prendre un mauvais exemple, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Comme Resident Evil 2 Remake, par exemple, qui lui a remodifié son gameplay pour obéir à la maniabilité d'aujourd'hui. Ici, c'est un jeu qui est disponible dans son jus, en fait. Vous allez jouer comme à l'époque.
Mais je pense que c'est
un
parti pris de la part des développeurs.
Et Resident Evil, justement, on garde cette lourdeur d'époque, on en parlait, et c'est
ah
ce
ouais,
qu'on aime.
RE4
la garde,
Remake, c'est horrible.
Lourdeur,
hein.
Avec
oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites là, tous les deux, parce que oui, on garde la lourdeur, je te rejoins. Non, Jalma, ce n'est pas horrible Resident Evil 4. En revanche,
si,
Resident,
horrible,
Evil
si.
4, Resident Evil 4 Remake garde les prémices et les bases de Resident Evil 4 d'origine pour lui donner tout un tas de petites choses qui rendent l'expérience plus fluide. Et c'est peut-être ça qui gêne un peu dans Brothers. J'ai lu, parce que je ne l'ai pas constaté, j'ai lu qu'en fait, pour des trois quarts de cercle ou certains mouvements, l'animation a été retravaillée et certaines choses ont été rendues un peu plus fluides au stick quand tu joues avec ton personnage. Mais enfin, ça reste très marginal. Globalement, à mon avis, vous prenez le jeu original et vous comparez avec le nouveau, ça se joue strictement de la même façon. Ok pour le parti pris de Jalma, mais peut-être que c'est ça qui a pu gêner certaines personnes.
Mais attends, on parle d'un remake et il y a un truc que je voudrais parler sur les graphismes, on parlait au gameplay, on n'a pas aussi parlé parce que tous les jeux ne savent pas le faire, mais c'est aussi la verticalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous souvenez, dans la phase dans le château où vous êtes accroché avec deux cordes, c'est assez incroyable parce qu'on a des effets de vertige,
old school,
etc.
C'est très old school. Hein,
c'est peut-être... Oui, mais le jeu est sorti en 2013, bordel.
Je suis d'accord, mais...
Non, mais bon. Amandel, il faudrait savoir ce que vous voulez. Vous voulez un remake ou un nouveau
school,
jeu, quoi.
C'est très... Non, mais alors, attendez. Moi, je trouve que t'as raison, la verticalité. Et c'est très old school, d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des actions que je trouve très rigides à faire et qui sont pas très agréables à certains moments. Mais je trouve que chaque biome, et même si on peut parler de la simplicité du gameplay, notamment en coop qui est décuplé, je trouve que chaque biome a une approche différente. Donc en fait, ça reste varié, tu vois, on va avoir cette phase dans le château où on va jouer tout en verticalité avec une autre type de jeu, on va avoir ces phases dans les contrées, on va avoir des phases planantes. En fait, du coup, en 3 heures, on a plein de séquences de gameplay variées, donc même si on parle d'un gameplay simple, etc., pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Et c'est là où tu l'ennuies, tu ne l'as plus, quoi.
Oui, parce que l'erreur qu'ont fait beaucoup d'analystes là-dessus, c'est que peut-être qu'on est face à un gameplay simple dans les énigmes qui sont abordées. Par contre, elles sont peut-être simples, mais elles sont très variées. Comme tu dis, en 3 à 4
varié.
Heures... c'est varié. Alors, je ne sais pas si on parle du coup du gameplay maintenant, mais...
Écoute, la DA, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. C'est une grande réussite aujourd'hui dans ce remake.
C'est un sacré travail des développeurs, et bravo, ouais.
En termes de narration et de narration environnementale, Brothers, c'est un excellent jeu. Il y a quelques points qui peuvent un peu plus faire tiquer sur le gameplay, donc on va en venir. Jalma, est-ce que tu veux nous synthétiser déjà comment ça fonctionne? C'est très simple. Je te laisse nous rappeler un peu le fonctionnement.
Ouais, alors comment ça se passe au niveau du jeu en solo? Parce que maintenant, ils ont rajouté aussi la version coop qui n'existait pas dans le jeu original, hein, qui est de la coop locale et pas de la coop en ligne. Je préfère vous préciser.
Mais alors, tu vois, excuse-moi, je me permets juste directement de te couper. Moi, à l'époque, je pensais que c'était un jeu en coop parce que tout le monde disait Brothers fait partie de l'un des meilleurs jeux en coop. Et je me souviens l'avoir téléchargé à l'époque. Et quand on a vu avec mon copain qu'il fallait utiliser la même manette, on avait laissé tomber.
Oui, mais
tellement ça a été mal vendu sur le marketing.
Mais parce que ça, c'est les gens qui ont détourné les choses. Mais à l'époque, c'était une révolution, le gameplay qu'ils ont proposé. Pourquoi?
Ah bah, c'est singulier.
Parce qu'en fait, c'est que vous jouez en fait, chacun avec des frères avec un joystick. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça a inspiré un autre jeu de l'année dernière qu'on n'a pas eu le temps de traiter. C'était Bayonetta Origins qui a repris exactement le même principe.
Exactement.
Donc tu vois, c'est-à-dire que ça a été repris. Mais à l'époque, moi je suis désolé, j'avais pas le souvenir d'avoir déjà vu ça ailleurs. Et tu sais, quand un jeu vidéo arrive à t'apporter une couche de gameplay que tu n'as jamais vu ailleurs,
pour moi, on rentre dans l'œuvre d'art. C'est pour ça que je dis que c'est une œuvre d'art là-dessus. Donc effectivement, comment se passe le gameplay ? Si vous y jouez en solo, vous allez jouer chacun des deux frères avec un joystick et vous allez utiliser vos touches, pas directionnelles, vous allez utiliser vos touches LTRT si vous avez la manette Xbox, qui vont vous permettre d'avoir des moyens d'action entre les deux frères. Et en fait, toutes les énigmes vont fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'il va falloir rentrer en interaction entre les deux frères, parce qu'en fait, toutes les énigmes, d'ailleurs, ont été construites pour un jeu solo, hein, quand on le voit. C'est-à-dire que, pour avancer, par exemple, vous allez avoir le grand frère qui va porter le petit frère, ça c'est dès le début du jeu, pour qu'il atteigne une falaise, et le petit frère va descendre une corde pour que le grand frère puisse monter. Vous allez avoir plein d'énigmes comme ça. Ou par exemple, on parlait de la phase du château, les deux frères vont être liés à une corde, et il faut penser à bien accrocher un des deux frères, et pas lâcher les deux en même temps, sinon vous mourrez, pour les faire basculer d'un à l'autre. Enfin, bref, vous allez avoir plein d'énigmes comme ça. Avancer des chariots ensemble, etc. Donc c'est très 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 varié.
Piloter plusieurs navires.
Des navires, voler, etc.
Des flottes.
Et effectivement, c'est des énigmes qui sont simples, elles ne sont pas dures à comprendre. Là où on peut avoir de la complexité quand on y joue en solo, c'est qu'il faut avoir quand même la présence de penser à gérer les deux frères en même temps. Et je pense que pour les gens qui vont avoir des petits problèmes de maniabilité, qui vont avoir du mal à gérer deux personnages en même temps, c'est là où ça peut vite devenir complexe. Je suis désolé. Je pense que des gens, certains gamers, ont dû avoir des soucis là-dessus. Mais je trouve que c'est quand même des énigmes qui sont très variées, quoi.
Non, ouais, c'est des énigmes qui sont très variées, mais moi, j'ai quand même un regret. Alors, j'entends, moi, comme je redis, j'ai joué en coop et je pense que j'ai perdu. De toute façon, ils le disent. En début de jeu, attention, ce jeu est pensé comme une expérience solo. Et c'est vrai que je pense que ça demande, comme tu dis, un plus de dextérité et ça ajoute du coup de la complexité dans ton gameplay.
Clairement pour l'avoir fait en solo
à l'époque. Ouais, je pense, parce qu'en fait tu joues un peu les deux frères de manière asymétrique, donc c'est là où ça va ajouter une certaine complexité. Mais je ne démords pas quand même que dans les phases de puzzle, moi je trouve ça quand même un peu dommage que les puzzles proposés, bah, ils demandent zéro réflexion. J'aurais aimé, même si le gameplay en solo est plus complexe qu'à deux, j'aurais aimé quand même me creuser un peu plus la tête sur les énigmes qui nous sont apportées.
Forcément.
Et là je trouve que c'est moi si. Personnellement, c'est un truc qui m'a un peu
tiqué. T'as pas forcément tort, et parce que effectivement, c'est en solo, la difficulté du jeu, entre guillemets, gros guillemets même, c'est la synchronicité, c'est effectivement de gérer les deux personnages avec son stick et avec l'unique touche d'action pour l'un et pour l'autre. Quand tu joues en coop, bah forcément, ça te fait, par rapport à d'autres jeux...
Oui, en coop, chacun joue un stick, en fait.
C'est une balade,
et
quoi.
Après, en termes d'énigmes, oui, effectivement, il n'y a pas de difficulté majeure. Maintenant, je l'ai ressenti comme ça en rejouant le remake, mais quelque part, est-ce qu'il faut vraiment lui en tenir rigueur ? Bramble, on l'a adoré.
Non,
Bramble,
adoré.
Est-ce que tu as trouvé que c'était particulièrement compliqué en termes d'énigmes ?
Bramble, il y a des... Alors, Bramble, c'était plus compliqué, mais ça, c'est dû à la technique du jeu et à la caméra, plus qu'autre chose.
Oui, mais t'as plein de jeux comme ça. Little Nightmare, c'est pas des énigmes compliquées, pourtant l'aventure est incroyable.
Ouais, mais un peu plus poussé. Oh,
c'est
même,
pas non plus des énigmes de dingue.
Moi, c'est vraiment le seul. Et je trouve que j'ai pas beaucoup de reproches à lui apporter, si ce n'est. Je suis pas sûre. Alors en fait, peut-être si vous avez jamais fait le jeu comme moi, je vous le redirai après, mais faites d'abord l'expérience solo et après jouez en coop. Là, vous vous amuserez. Mais c'est quand même, si j'ai un seul reproche à lui faire, moi, ça serait quand même sur la qualité des énigmes.
Oui, mais la qualité des énigmes, là où c'est intéressant, je suis obligé de contredire là-dessus, c'est qu'elles sont très, très variées. Voilà, vous allez avoir des phases de bateau, vous allez avoir des phases où vous allez...
Non, c'est pas les énigmes. Non, c'est pas les énigmes qui sont variées.
C'est comme du gameplay, ça.
Les énigmes ne sont pas variées. C'est le gameplay. Moi, je te parle des énigmes, des phases de réflexion. Est-ce que je dois...
Oui, mais
comment je dois faire ? À un moment donné, t'as un truc avec deux moulins. Comment je dois passer ces deux...
Oui, mais le gameplay, si, parce qu'il y a quand même... Ça, je suis désolé, ça rentre dans le cadre des énigmes. Quand tu rentres dans le village et qu'à un moment donné, que tu dois éviter un chien qui te fonce dessus en montant sur des bottes de foin, je veux dire, c'est quand même varié que plus tard où tu vas monter une falaise et tu vas devoir aider ton frère, que tu, à un moment donné, plus tard, ils vont tous les deux s'accrocher à une tyrolienne. Enfin, je veux dire, ça fait partie des énigmes, je suis désolé. Toute épreuve que tu traverses, c'est une énigme et qui est très variée. Et c'est là où les gens ont fait une grosse erreur, parce que les gens m'ont dit, bah ouais, mais je m'attendais à une texte et machin, à Wait Out. Mais c'est pas
qu'il faut prendre
le jeu. Il faut le prendre dans le sens inverse.
Que
je pense, et là je vais le redire dans le gameplay, c'est que je pense que It Takes Two était à ce niveau parce qu'il y a eu un Brother savant. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais retrouve des phases qu'il y avait dans Brother qui ont été largement développées dans It Takes Two.
C'est vrai.
C'est-à-dire que les phases de tyrolienne, etc., vous retrouvez ces phases-là dans les grands vides d'It Takes Two. Et je rappelle que je pense que le réalisateur s'est servi des retours des expériences de joueurs de l'époque pour les développer dans It Takes Two. Et je reste persuadé que sans Brother, It Takes Two n'aurait jamais été GOTY, par exemple.
Mais bien sûr.
C'est logique.
On est tout à fait d'accord. Je vais le dire néanmoins autrement. Brothers est un gros brouillon de Way Out et de It Takes Two.
Oui, mais ça reste un premier jeu. C'est sa première expérience en tant que réalisateur.
C'est ça, c'est tout à fait logique. C'est la première expérience. Et après, oui, c'est des expériences succinctes, en fait, tout simplement.
Parle-moi. Moi, j'aime bien un brouillon. Avant de faire quelque chose, avant de faire une belle émission pour la GG, j'ai un brouillon, par exemple.
Mais tu restes souvent brouillon, d'ailleurs, donc ça ne change rien.
Moi, j'aime bien la question du brouillon. Mais justement, aujourd'hui, quand tu fais un remake et que tu gardes le parti pris d'origine dans son jus, et que tu n'apportes pas une dimension supérieure, ça peut gêner les gens qui ont connu les jeux que tu as cités et qui viennent à cette expérience. Et là, je comprends que les gens soient un peu en répulsion face à cette expérience.
Non, mais non, ça veut dire que dans ces cas-là, tu ne fais jamais de rétro-gaming. Dans ces cas-là, alors, tu ne reviens
peut-être
pas
que c'est le problème des critiques négatives que tu as entendues.
Je pense qu'en proposant cette expérience en coop, ils auraient peut-être pu, dans ce remake, ajouter une autre complexité dans le gameplay. Et c'est ça, c'est dommage. Sinon, ils n'auraient pas dû proposer cette expérience en coop. Parce que pour ceux...
Non, parce que
pour tous ceux comme moi qui l'ont découvert en me disant « Vas-y, j'y vais en coop », j'ai pas eu les appréciations avant en me disant « C'est un jeu solo, faut vraiment le vivre comme ça ». Je me doutais, mais je pensais qu'en coop, on allait quand même avoir...
Non, ça n'a pas été réfléchi comme ça. Il faut vraiment qu'à un moment donné, on aille voir des studios, que vous discutiez avec un peu des gens qui travaillent dans les studios pour voir comment ils réfléchissent. Je pense que ça n'a pas été du tout réfléchi comme ça. Je vais te dire comment ça a été réfléchi. Ça a été des joueurs comme nous, comme Fred chez moi, qui ont connu ce jeu à l'origine. Et qui se sont dit, bah tiens, ça va être l'occasion de le faire découvrir à une personne qui ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, quand on avait le jeu original, nous on l'avait eu sur Steam, on a eu des réductions pour avoir le remake. Donc ça, déjà, ça nous a permis de faire un petit complément de 10€, je crois, de mémoire, ou 13€, je ne sais plus, j'ai plus l'idée du prix en tête. Et ça permet du coup de faire découvrir à quelqu'un qui n'a pas connu le jeu, de le découvrir à deux. Et c'est comme ça que ça a été réfléchi. Et d'ailleurs, ils le disent, tu l'as dit tout à l'heure, dès le début, ce jeu a été pensé en solo et pas en coop. Mais je pense que c'était l'occasion, en fait, de le faire découvrir. Parce qu'en plus, il y a le Remote Play Together sur Steam qui permet d'y jouer quand même à distance. Donc, ça va permettre à quelqu'un qui n'a pas connu le jeu de le découvrir à quelqu'un qui l'avait déjà sans avoir à passer à la caisse. Et là, c'est très, très bien joué parce que ça peut pousser les joueurs, du coup, à découvrir A Way Out pour ceux qui ne l'ont pas connu et découvrir les textos par la suite et découvrir l'autre production qui, je pense, je vous l'annonce tout de suite. Et je n'ai aucune info là-dessus. Hein, c'est juste de la spéculation. Leur prochain jeu arrivera en 2025, je vous l'annonce.
Ah,
voilà.
Ce serait trop bien.
Spéculation.
Ce sera
un jeu en coop, ça va être...
On adore As a Light.
Alors, 2025, j'en sais rien, je te laisse à tes mots, à ta prédiction. Par contre, en revanche, pour le coop, oui, c'est évident, parce que As a Light de Joseph Fares s'intéresse qu'aux jeux en coop. Donc, je les vois mal passer à un jeu solo.
Mais tant mieux, voilà. Mais je pense que ça a été il a été proposé en coop.
Mais je pense qu'ils l'ont mis en coop, parce qu'il y a la pression de moi, comme je te dis, sur tous les réseaux, quand tu cherches jeu coop, Brothers ressort. Et ils se sont dit, écoute, on va le proposer en coop, alors que le jeu n'est pas pensé comme ça, et n'aurait pas dû, selon moi, même si c'est génial de pouvoir partager une petite aventure de 3 heures avec quelqu'un, et ça te casse ton expérience du jeu. Et en fait, ça te casse ce qu'ils ont voulu construire avec Brothers, tout simplement. Ouais. Donc pour quelqu'un comme moi, ou pour mon copain, où on est des gamers quand même assez confirmés, on joue énormément, tu peux avoir un peu de déception sur le jeu, alors que c'est un jeu qui est splendide.
Oui.
Et du coup, de le découvrir de cette manière dans une première run, c'est dommage. Mais après, l'histoire reste bien assez forte, hein, si t'as la sensibilité. Mais ça te casse quand même ton expérience, French.
Je suis assez sensible à ce que tu racontes, Joss, parce que moi, pour mon second run, mon premier run sur le remake, j'avais envie de le jouer en coop. Ça ne s'est pas fait, je l'ai rejoué en solo. Mais effectivement, je pense que l'expérience en coop perd quelque chose. Parce que le gameplay devient beaucoup trop simpliste, beaucoup plus qu'en solo. Et quelque part, ça va peut-être te sortir un peu plus de l'expérience, peut-être. Voilà, enfin c'est vraiment quelque chose dit comme ça. Maintenant,
je vais répondre à ça.
Le coop, en vérité, il était déjà né un petit peu plus tôt. Il est né lors de la sortie de la version Switch. C'était il y a 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Et ils avaient déjà ajouté le fameux coop sur les deux manettes de la Switch. Donc voilà, c'est pas une spécificité de cette version, mais en effet, on ne cesse de le répéter. C'est une expérience qui peut se jouer en coop, mais c'est une expérience solo.
Je veux juste répondre à ça, parce que je suis pas d'accord avec vous. Moi, du coup, j'ai refait le jeu une deuxième fois en coop, comme je l'avais fait initialement en solo.
Mais voilà, mais tu l'as fait dans le bon ordre.
Tu
l'as fait en solo initialement.
Oui, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que je trouve que ce jeu à deux s'embellit, à la différence de vous. Je suis pas d'accord, parce que ce que vous oubliez de dire, c'est le partage de l'expérience. Elle partage des émotions et ça,
non mais
tu ne feras jamais enlever l'idée que tu partages mieux les émotions à deux que tu les partages quand tu es seul.
Je suis pas d'accord avec toi là-dessus.
Moi, je pense que t'as pas compris ce que j'ai dit. Tu l'as vécu comme il fallait le vivre. Tu l'as fait d'abord en solo et tu l'as redécouvert à deux. Et c'est ça que je recommande à tout le monde de faire dans un premier temps.
Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que t'as French qui est quand même une bibliothèque sur pattes des jeux vidéo, etc. Moi, je suis un peu, je pense, le génie du jeu vidéo dans mes analyses. comment ça se fait que tu vas te renseigner sur les réseaux sociaux, en fait? Demande-nous, et on t'aurait dit ce qu'il fallait faire, de commencer en solo et après le corps.
Vous auriez dit oui, je sais pas, en fait, j'ai même pas réfléchi. Non, mais je vous avoue,
elle
j'ai
nous
même...
a pas écouté, non, elle non, nous non. écoute jamais.
Non,
elle
c'est
nous
même pas ça,
jamais.
C'est même pas ça, j'ai même pas réfléchi. Moi, je me suis dit Brothers, sur Internet, c'est connu comme une expérience coopérative. Je me suis dit, bah, trop bien. Moi, j'ai adoré toutes les expériences. C'est quelque chose qui me manque dans mon parcours de joueuse. On en avait beaucoup quand on était jeune. On en a plus. C'est quelque chose que je demande énormément, vous le savez, de pouvoir partager les expériences en local. Hein. Donc, tout de suite, j'ai voulu aller sur ce côté coop local. Et c'est en fait avec le recul où je me suis dit, en fait, non, j'aurais pas dû fonctionner comme ça. Mais on va passer au convaincu ou pas convaincu, Jalma. Toi, j'imagine que t'es convaincu à 3000%.
Oui, mais alors après, il faut toujours être honnête. Convaincu, oui, par le jeu. Convaincu par les remakes, toujours pas. Parce que moi, je suis pas du tout un fan des remakes. Donc, je suis obligé quand même de le redire là. Je pense que c'est un frein à la créativité. Maintenant, c'était un plaisir de le redécouvrir à deux.
Moi aussi, archi convaincu. Bon, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, j'étais un peu perplexe. Dû à la simplicité et à l'histoire qui est un peu plus mignonne, un peu plus choupie, comme dirait notre Nao, un peu plus pipou. Et puis par la suite, en fait, je me suis laissée complètement conquise. Hein, l'histoire est incroyable. Je le répète, pour un premier run, si vous ne l'avez pas fait, pour profiter pleinement de l'expérience, allez-y en solo, comme c'est pensé de base. Puis par la suite, faites-vous un second run avec votre conjoint ou quoi. Même si je trouve qu'il n'y a pas une grosse rejouabilité, mais le jeu, il est très court. Donc c'est une option. Hein, c'est 3 heures, vous ne perdez pas vraiment votre temps. Donc voilà, non, bien évidemment, moi je suis conquise, je le recommande, et c'est un petit bijou de la scène indépendante de par son histoire et par sa narration environnementale qu'il faut absolument découvrir. Et toi, French?
Moi, je suis plutôt convaincu, avec quelques petites réserves néanmoins que je vais expliquer rapidement. Je suis plutôt convaincu parce que si c'est pour le découvrir comme tu l'as fait, Joss, que tu joues en solo ou en coop, en définitive, pourquoi pas? C'est la meilleure façon de jouer au jeu aujourd'hui. Hein. Donc là-dessus, allez-y, c'est magnifique, c'est beau, il y a une belle histoire, il y a quelque chose qui prend aux tripes et qui donne envie de voir la fin de cette aventure de ces deux frères. Ça, c'est vraiment, ça vaut le détour. En revanche, est-ce que le redécouvrir aujourd'hui, ça a une utilité? Là, je suis beaucoup plus perplexe. C'est un gameplay totalement suranné, c'est un gameplay totalement d'époque. Donc il faut déjà aimer, j'ai bien aimé quand Jama a parlé de rétro gamer et de peut-être de jouer de l'ancien temps. Parce que moi, quand j'y ai joué, il faut m'excuser, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir, je sais pas, d'être revenu 11 ans en arrière, quoi. Bon, c'est un trip, mais il faut le savoir quand on joue au jeu, c'est très important. Donc moi, je le recommande plutôt si vous n'avez jamais joué l'aventure. Si vous y avez déjà joué, franchement, passez à autre chose.
Ah, je te trouve un peu dur parce que je suis d'accord, il y a quand même des passages rigides, on l'a dit, notamment dans les actions. Mais je trouve que l'ensemble est quand même plutôt fluide, ça se fait quand même plutôt bien.
Oui, mais c'est en termes d'histoire, en termes d'émotion et tout ce que le jeu peut apporter, il n'a rien de plus que le jeu original avait déjà. D'où le fait que
oui,
je précise.
D'accord.
Et encore une fois, j'aime l'histoire et j'aime...
C'est un peu la définition d'un remake, non, je pense.
J'aime l'histoire et j'aime les thématiques abordées. Sauf que j'ai vraiment rien eu de neuf à part cette beauté technique.
Bah, et heureusement qu'il n'est pas directeur du Louvre, hein, parce que sinon il repeindrait tous les tableaux. Quoi.
Bon, en attendant que ce soit seul ou en coop, Brothers of the Tale of Tucson Remake est une belle expérience que l'on ne peut que vous recommander chaudement. Vous pourrez le retrouver sur Xbox Series, PS5 et PC pour une 20aine d'euros, hein, il me semble. Du coup, si vous avez déjà l'épisode original, vous allez avoir une remise. Vous l'avez eu sur Steam, donc ça c'est intéressant. Comptez entre 3 et 5 heures pour le terminer. C'est 5 heures si vous voulez vraiment prendre votre temps et vraiment tout explorer dans votre environnement. Mais sinon, voilà, comptez à peu près 3 heures pour arriver au bout de cette aventure. Bon, écoutez, c'est terminé pour le clash du mois. On va passer au calumet du pixel.
Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît?
Pas de soucis, man. Prends.
Alors, pour ce calumet du pixel, on va tourner la chose de manière ludique. Je vais demander de vous mettre dans la peau d'un investisseur pour un groupe de l'industrie du jeu vidéo et de réfléchir à cette question. Si vous deviez lancer un projet remake, quel est le qui veut commencer? French?
Oh, j'ai pas envie. Alors moi, je suis un très mauvais investisseur, donc forcément, je vais vous parler de trucs obscurs. Enfin, en tout cas, oubliés, à mon avis. Non, je suis très embêté par ta question, Joss, aujourd'hui. Je suis très embêté parce que pour moi, un remake, à la lumière de ce qu'on a discuté sur Brothers à l'instant, pour moi, c'est un moyen de faire redécouvrir... J'ai deux choses que j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un moyen de faire redécouvrir un classique d'aujourd'hui, un classique de l'ancien temps, mais qu'on adapte aux standards d'aujourd'hui. Et c'est une manière de chercher un nouveau public. Voilà. À mon avis, Brothers ne répond pas exactement à ça, d'ailleurs, au passage. Hein, donc, je vous laisse méditer. Et c'est aussi, ça répond aussi à autre chose, qui est peut-être plus le côté investisseur. Comment tu fais plaisir à une base fan qui est déjà présente pour rejouer à son précieux jeu dans les meilleures conditions possibles, un petit peu ce qui va arriver avec Metal Gear Solid 3 prochainement, on l'espère, ou Silent Hill 2 Remake, quoique ça a l'air un petit peu compliqué par rapport à la base fan, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, pour moi c'est ce que je retiens sur les remakes en jeu vidéo, en tout cas. Alors, partant de là, et avec mes goûts, que vous le savez, j'ai des goûts un petit peu plus vieillots, entre guillemets, en termes de jeu, et je les assume, moi j'aimerais beaucoup retrouver l'espèce d'âge d'or que j'ai connu dans les années 90, de 90 à 2000 dans les jeux vidéo, et il y a beaucoup de titres que j'aimerais voir modernisés aujourd'hui, avec des prises de liberté sur les histoires ou sur le gameplay, parce que pour moi, ça s'y accorde très bien. Concrètement, je préférerais voir un remake de jeux d'aventure horreur comme Phantasmagoria, comme Gabriel Knight, aujourd'hui, qui sont des licences qu'il faut vraiment raviver, plutôt qu'un remake de, et Jalma va être content, ouais, de Dead Space ou de Resident Evil 4, qui sont des jeux beaucoup plus proches de nous et qui, quelque part, ont moins besoin de cet effet-là. Mais ça, c'est vrai que c'est mon avis personnel.
Ouais, je te rejoins dans ton analyse, et c'est pour ça que j'avais pensé à Castlevania Lord of the Shadow, je trouve, en remake, parce qu'on a deux séries Netflix actuellement qui marchent plutôt bien. Et en fait, ça permettrait de faire redécouvrir cette licence qui était excellente. Moi, j'ai mis Lord of the Shadow parce que c'est celui-là que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait les plus vieux comme tu avais fait French. Et je trouve qu'il est peut-être plus accessible aujourd'hui pour la jeune tranche de joueurs. Mais je pense que pour surfer sur la sortie, parce qu'on va avoir la saison 2 hein, qui a été confirmée de Castlevania Nocturne, là, sur la deuxième formule Netflix, je pense que pour surfer là-dessus, ça pourrait être un coup de poker. Relancer la licence, il y a une fanbase, tu parlais de cette fanbase, il y a une fanbase des Castlevania, on l'a vu sur Netflix, et c'était un excellent jeu. Et de le remettre au goût du jour, ça serait encore... Moi, c'est un remake là où j'irais. Et après, je m'étais noté Beyond Good and Evil. Bon, quelques galères du 2, on sait qu'il était très attendu. Je crois qu'ils en avaient parlé d'ailleurs hein, d'un reboot de Beyond Good and Evil, mais on avait vu les images, c'était pas très sexy.
Si, il y a un remake qui serait dans les bacs hein, chez Ubisoft.
Mais je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de joueurs qui attendaient énormément le 2, qui est un jeu qui a énormément marché et qui plairait, je pense, aujourd'hui à toute tranche d'âge, aux anciens joueurs comme nous pour la nostalgie et aux jeunes joueurs. Et dernier remake, c'est que moi je demande depuis très longtemps à chaque podcast, et là je parle avec le cœur, je parle des Seigneurs des Anneaux. Mais honnêtement, je pense que si je suis un investisseur, pour moi, c'est une bonne stratégie parce que c'est une
licence. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi là-dessus parce que je pense que ça va arriver. Et je vais t'expliquer pourquoi.
Les remakes des Trois Seigneurs des Anneaux en coop
local. Oui, je vais t'annoncer pourquoi. Non, mais vous allez écouter l'analyse que je vais vous faire derrière, les gars.
Alors ça,
vous allez vous dire, le gars, il fait des... Maintenant, non, parce que moi, je me suis intéressé au sujet. Alors, d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Moi, je me suis dit, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme remake? Il fallait que je me souvienne un peu des jeux que j'avais fait. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai tapé, je vous le dis, sur Google. Meilleur jeu vidéo de PS2. Tu vois, je me dis, tiens, je vais les fouiller dans la PlayStation 2. Il y en a un qui sort déjà, que je me dis, French va me le citer. Comme par hasard, il n'a pas bossé sa chronique. Je pensais qu'il allait me citer quand même Shadow of the Colossus, qui est quand même sorti sur PS2.
Mais il a déjà fait l'objet d'un remake.
Oui.
Mais d'un nouveau remake dans les temps modernes avec Unreal Engine 5, par exemple.
Oui, mais franchement, il est déjà très bien, parce que moi, Shadow of the Colossus, je l'ai découvert sur le tard et il est très bien la formule proposée.
Il était ressorti sur PS4, d'où le fait que je faisais ça.
Je te dis, c'est pour ça que je te parle. On parle. Attendez, les gars, ça n'empêche pas. Tu vas dire quoi alors avec les remakes et les remasters de The Last of Us qui sont sortis sur chaque console?
C'est un peu le cas. Franchement, ça fait un peu moins sens parce que moi, je l'ai découvert sur PS4, sur la nouvelle formule, sur le tard, et il est.
Mais The Last of Us, il y en a qui l'ont découvert sur PS4. Moi, je n'avais pas la PS4, ce serait aussi l'occasion de le découvrir sur PS5, voire sur PS6.
Oui, mais.
The Last of Us, ça fait cette stratégie-là, ça vous a pas dérangé, bizarrement?
Bref. Non, mais ça m'a pas dérangé, mais je l'ai fait pour le faire découvrir à quelqu'un qui n'y avait jamais joué.
Laissez-moi finir mon analyse, s'il vous plaît, bordel. Et du coup, je continue. Donc, je suis allé voir les jeux PS2, etc. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de remakes qui sont sortis de là. Il y a Resident Evil 4 est sorti sur PS2, on a eu un remake. On a eu également Okami, il y a eu Okami HD qui est ressorti. Et en fait, et il y a plein de jeux comme ça qui sont ressortis. Il y a Metal Gear 3 qui était sorti sur PS2. Là, il y a un remake qui arrive. Donc, je me dis, mais en fait, ils sont en train de... Et Silent Hill 2, oui, je l'avais vu aussi. Et je me dis, mais en fait, ils sont tout piochés dans la PS2 pour la plupart des remakes qui sont en train d'arriver. Donc... Le Seigneur Zano, c'est sorti quand? Je t'annonce des bonnes nouvelles, ceux que t'adores. C'était sur PS2.
Moi, je les ai fait sur GameCube.
Donc, on sent les remakes arriver. Et donc, moi, j'en profite pour faire une réclamation, du coup, une envie que je ferai en tant qu'investisseur. Bah, moi, j'ai hâte qu'il y ait un remake sur FF10, parce qu'il était sorti sur PS2, je l'avais adoré. Et j'aimerais, du coup, pourquoi pas, voir aussi un remake sur MGS2, comme on a le MGS3. J'ai l'espoir que MGS2 arrive, parce que c'était aussi sur PS2. Mais allez juste regarder la liste des jeux sortis sur PS2. Il y a eu déjà beaucoup de remakes sur cette liste-là, et à mon avis, on en a encore
d'autres.
T'as
pas dit, juste avant qu'on démarre ce podcast, quand on était en off, que t'en pouvais plus des Final Fantasy?
Alors, on en parlera quand on fera... On va l'annoncer, parce que je suis en train de découvrir FF7 Remake, Parce que j'ai Fred, vous savez, les enfants, quand vous êtes en train de faire les courses, qui sont là à la caisse, en train de vous dire « achète-moi des bonbons », moi j'ai Fred depuis le début de l'année, « oui, je veux faire FF7 Rebirth en podcast ». Moi je me suis dit « putain, il me fait chier, parce que Final Fantasy, j'en ai un peu gros sur la patate ». Je me suis lancé dans le remake, pourquoi ? Pour ensuite me lancer dans le Rebirth, donc on peut le dire, on aura un débat qui arrivera au cours de l'année sur FF7 Rebirth, laissez juste nous le temps, parce que nous on veut vraiment finir le jeu à 100% pour vous en parler. Voilà, mais oui, j'en ai un peu marre des Final Fantasy, parce qu'entre FF16, que j'avais quand même apprécié, je passe au remake, j'ai déjà des choses à dire dessus, mais je sais pas pourquoi FF10 avait été un gros coup de cœur scénaristique à l'époque, et j'aimerais bien qu'il arrive en version remake, pour voir le moderniser, pour vous faire redécouvrir l'histoire. Voilà, c'est pour ça, mais pourquoi pas MGS2, parce que moi, Metal Gear Solid 2, j'avais adoré à l'époque, et un remake de MGS2, comme il y a le 3 qui arrive, je me dis, bah le 2, c'est pas déconnant que ça arrive un jour, donc ça serait vraiment génialissime. Et donc je t'annonce que je pense vraiment le Seigneur des Anneaux, ça risque d'arriver, honnêtement.
Ah bah le Seigneur des Anneaux, en plus avec l'expérience coop, c'est obligé. Alors déjà la licence, t'as même pas besoin de la vendre, t'as même pas besoin d'un gros truc marketing. Honnêtement, t'annonces un jeu de Seigneur des Anneaux, t'as même pas besoin de faire du surmarketing. Donc déjà au niveau d'investissement, moi quand je pense investisseur, tu vois, je me dis c'est une bonne stratégie. Et puis surtout je me dis, je me le dis, en fait ça séduira tout le monde. Puis on va en parler, hein. Ça sera la thématique de notre prochain podcast, hein, le multi, les jeux solo. Mais à l'heure où multi prend de plus en plus d'ampleur, proposer, reproposer cette formule-là, mais ça serait un carton plein.
C'est pas génial.
Et autre chose sur les jeux PS2, je regardais à l'instant, il y a aussi eu, à cette époque, on a entendu des rumeurs de remake. Vous allez voir que ma théorie n'est pas déconnante. Hein. Il y a les Splinter Cell, on a des rumeurs sur un remake. Il y a eu pas mal de Splinter Cell qui sont sortis à cette période-là. Il y a des rumeurs sur des remakes, enfin des rumeurs, des complications plutôt chez Ubisoft sur un Prince of Persia. Il y a eu beaucoup de Prince of Persia à ce passage-là.
Ouais, Prince of Persia, mais c'est compliqué. Hein.
Alors, pour le coup, j'adore ton analyse, Jalma, je tiens vraiment à le dire.
Merci.
Tu pourras en faire à même, tu pourras enregistrer ce que je viens de dire et la réécouter quand tu voudras.
Il va le télécharger, il va le mettre en réveil le matin, il entendra ça
en
tout le matin.
Oui, j'adorais de me dire, Jalma, t'es le meilleur et je me mets ça en réveil avec Fred qui me parle, ça serait génial. Beau. Quoi.
Mais non, je suis assez d'accord, je pense que c'est l'un des anneaux et d'autres titres de genre, ça mériterait effectivement quelque chose. Je suppose que le problème, il est ailleurs, peut-être en termes de droits. Qui a les droits à l'heure actuelle du Seigneur des Anneaux des films pour pouvoir en faire un nouveau jeu vidéo? Donc ça, c'est une autre question d'investisseur, comme
oui,
je
l'ai
dit.
Peu importe, le sulo le fera.
Mais ça serait bien,
c'est l'investisseur
Prince of Persia qu'on a cité. Alors, les Sabliers du Temps, Sands of Time, ça a eu un développement très compliqué, visiblement rebooté chez Ubi, mais c'est toujours prévu sous forme de remake. Pourquoi pas, ça peut être cool.
Ils le sortiront, tu verras qu'ils le sortiront.
Ils vont le sortir,
mais quand? Parce qu'ils l'annoncent, et puis après ils remboursent, et puis ils réannoncent. Moi, j'adorerais ce remake, parce que c'était un excellent jeu.
Et le cas Splinter Cell, qui est une saga que j'aime beaucoup, je suis très content que tu la cites, Jalma, très content, ça doit être pour ça que je suis très sympa avec toi là maintenant.
Mais parce qu'on aime les jeux d'infiltration, on aime s'infiltrer ensemble nous, tu sais.
Bah voilà, c'est ça, exactement. Splinter Cell, c'est une saga qu'on aime énormément, que Ubi ne développe plus, et typiquement, si là tu remettais cette saga sous le devant de la scène avec peut-être du remake, parce que ça pourrait se justifier, bah peut-être que tu pourrais développer un nouvel épisode derrière, et ça deviendrait très intéressant.
Ah, moi je pense que ça va arriver, et comme en ce moment en plus on a l'essor un peu des super agents qui vont revenir, notamment avec le studio EA Interactive qui a développé Hitman, qui est en train de développer on va peut-être avoir un regain d'essence des agents secrets. Voilà.
Et James Bond qui était excellent à l'époque aussi, hein, si on pouvait avoir un reboot de ça. Bon allez, écoutez, c'est terminé pour ce podcast. Merci à tous pour vos analyses plutôt pertinentes cette fois-ci, vous avez fait des efforts. Et alors je vous fais un petit rappel.
Ça c'est gratuit comme tac là quand même. Hein.
Non, je vous fais un petit rappel. Merci à vous encore une nouvelle fois. Vous avez l'habitude, c'est la relance de fin de podcast. À vous qui nous écoutiez, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire. Et comment nous le dire ? Et ben vous pouvez tout simplement liker cette vidéo, mettre une note. Je sais pas sur quelle plateforme vous nous écoutez.
Et déjà j'ai réfléchi à un truc. Tu sais ce qu'on devrait faire ? C'est que dès qu'il y en a qui met un pouce, on devrait faire un de tes enregistrements de ton imitation de Gollum du dernier podcast. Et on l'envoie gratuitement à celui qui nous met le plus de pouces. Et je pense que ça motiverait les gens. Parce que ton imitation de Gollum, je me la passe en boucle. Alors je la mets pas au réveil, je me la passe sous la douche. Moi, tu vois, ça m'aide à me détendre énormément. Et on n'aura jamais
non,
une aussi bonne imitation.
Non, mais je sais qu'il y a des gens qui nous ont demandé, parce qu'ils veulent nous soutenir, ils nous ont demandé un Patreon, c'est ça ? Un Patreon ?
Ouais.
Et ben, on peut proposer, si vous nous donnez un peu pour nous soutenir.
C'est sûr qu'ils veulent pas que Fred aille au Panthéon plutôt, c'est pas ça, non ?
Oui, on peut vous proposer des la voix
moi,
de Gollum.
Moi, je tiens à dire que j'ai entendu beaucoup de belles choses positives sur vos deux imitations de Gollum.
Et tu sais que je suis en train de m'entraîner sur une en ce moment, je vais le dire, et je vous la ferai dans un podcast. Je m'entraîne, vous savez, les petits monstres qu'il y a dans Toy Story, là, tu sais, avec le grappin.
Ouais.
Je suis en train de préparer ça.
Ouais.
On tire quelque chose.
Ouais,
hein.
D'accord, je pense qu'on va arrêter ce podcast. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous et merci de nous soutenir. À
bientôt, jouez bien.
Des bisous, ciao, ciao.